Bon matin Noévie Châteauguay, est-ce que ça va bien aujourd'hui?
Oui.
C'est un oui franc, j'aime ça. Tellement heureux de vous retrouver ce matin, d'être avec vous aujourd'hui. Je sais pas si vous étiez présent il y a deux semaines lorsque j'ai enseigné mon premier message de l'année parce que j'étais en congé paternité. Et je sais pas si vous étiez présent, mais j'avais enseigné une prière que je crois tellement être essentielle et importante si on veut vivre une année de renouvellement. Si on veut vivre une année différente par rapport aux celles qui viennent de se passer, j'avais enseigné sur la prière du « sonde-moi ». Et si vous n'étiez pas là, je vais être rempli d'amour et de grâce envers vous. Je ne vais pas vous demander de lever la main pour éviter que tout le monde fasse « bouh ». Vous nous avez manqué et vous avez toujours la possibilité d'écouter le message sur nouvellevie.com/message. Mais rapidement, ensemble, on avait vu que pour vivre une année différente, pour vivre une année de renouvellement, pour vivre une année de transformation, on était appelé à faire cette prière « sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Mais aussi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes peurs, connais mes pensées anxieuses, connais les endroits de ma vie où je te fais pas assez confiance. Et enfin, sonde-moi, ô Dieu, et conduis-moi sur ton chemin. Conduis-moi dans ta voie. Et à la fin, je vous avais challengé à faire cette prière. Et non seulement à faire cette prière ce matin-là, mais à faire cette prière quotidiennement, tout au long de l'année, pour vivre une année différente. Et j'étais vraiment touché de voir que plus de la moitié de l'église était engagée, avait envie de vivre une année différente, d'avoir envie de faire cette prière-là. Et alors que je rentrais chez moi, après, suite à ça, j'étais reconnaissant envers Dieu, je priais pour vous, je priais pour les gens qui avaient levé leurs mains, puis j'étais frappé par une pensée que vous devez tous savoir. Je vais rien vous apprendre de nouveau, mais on est mauvais pour tenir nos engagements. Ne levez pas la main, mais qui a oublié de la faire, cette prière, depuis ce message? Alors que tu t'étais engagé à le faire, qui a oublié de la faire? J'ai vu une main se lever, je ne t'ai pas regardé. Selon une étude, la plupart des résolutions qui ont été faites le 1er janvier, 1er janvier de l'année, on est motivé, on a fait des résolutions, on est paré pour le reste de l'année. Mais selon cette étude, la majorité ont été abandonnées avant le 19 janvier. Et 80% des gens abandonnent totalement leur résolution avant le mois de février. Aïe aïe! Il y a une personne à qui je parlais de ça ce matin, puis qui me disait, oh, pas besoin d'attendre le 19 janvier, moi, j'avais arrêté déjà avant. Puis je vois vos sourires, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont soulagés de se dire, ouf, je suis pas le seul à avoir abandonné mon régime ou la gym dès le 4 janvier. On est mauvais pour tenir nos engagements. Donc je me disais ce matin qu'on va poursuivre encore cette idée du « sonde-moi, ô Dieu ». Et afin de vous aider à continuer à faire cette prière-là, puis afin de vous encourager, peut-être si vous n'avez pas voulu forcément vous engager à la faire, cette prière, venez-vous-en. Venez-vous-en, elle va vous impacter, elle va transformer votre année. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va sonder nos cœurs sur un thème en particulier. C'est un thème que Dieu travaille énormément en ce moment dans ma vie, dans mon cœur. C'est un thème qui fait remonter, qui vient me challenger personnellement, qui vient me confronter. Puis je me disais qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à être confronté. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à être confronté par Dieu, donc je voulais vous l'apporter ce matin. Croyez-moi, ça va être le fun. N'ayez pas peur, vous allez passer un bon moment, je suis sûr. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question que j'ai entendue dernièrement et qui m'a aussi confronté. Mais j'ai entendu une question dernièrement qui disait « Si Dieu répondait à toutes vos prières d'ici la fin de l'année, toutes vos prières, et pas seulement d'ici la fin de l'année, mais d'ici la fin de la journée, si Dieu répond à toutes tes prières à la fin de la journée, est-ce qu'il n'y aurait que ta vie qui serait impactée? Ou est-ce qu'on pourrait voir un changement dans le monde? Si Dieu répondait à toutes tes prières, est-ce qu'on pourrait voir la différence que chez toi? Peut-être que si Dieu répondait à toutes tes prières dès ce soir, ton compte bancaire sera beaucoup plus rempli pour certains. J'ai entendu des amen. Amen. Peut-être que tu serais plus musclé. Peut-être que mesdames, t'aurais enfin le mari parfait qui fait le ménage, la vaisselle, leur passage, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de faire à manger. Et peut-être que pour vous, messieurs, vous auriez enfin la femme parfaite qui fait déjà tout ça, mais en plus de ça, qui vous laisse tranquille dans le canapé et qui vous laisse l'espace dans le lit. Yes. J'entends des amen, je le sais. Je connais vos cœurs. Je fais la même prière. Peut-être que tes dettes à toi, elles seront payées. Peut-être que certains, tu retrouverais l'énergie de tes 20 ans. Ou les cheveux de tes 20 ans. Regardez personne. Peut-être que ton travail ne serait plus angoissant, ou alors peut-être le must du must, là, alors que la neige tombe, elle ne tombe pas sur ton allée. Plus besoin de pelleter la neige. Les autres pelletent, mais moi c'est fini. Dieu a répondu à ma prière. Si Dieu répondait à toutes tes prières, est-ce qu'on verrait la différence que chez toi? Ou est-ce que la différence serait visible aussi dans le monde? Est-ce qu'on verrait plus d'âmes venir à Jésus? Est-ce qu'on verrait plus de personnes seules être entourées, être aimées, être encouragées? Est-ce qu'on verrait une différence dans la ville de Châteauguay? Ou même juste dans notre église? En fait, ce que je veux voir avec vous ce matin, dans cette idée du « sonde-moi, ô Dieu », parce que oui, on l'a vu la dernière fois, c'est quelque chose qui est personnel, c'est « sonde-moi ». Sonde-moi d'abord. Mais je veux nous amener à faire cette prière aussi, mais rends-moi sensible aux autres. Aide-moi à m'ouvrir aux autres. Aide-moi à regarder les autres. Aide-moi à te ressembler, Seigneur. Aide-moi à partager ta peine. Aide-moi à faire la différence. Parce que je crois que nous sommes appelés, nous, les Châteauguay, à faire la différence. Et ce matin, on va aller dans l'évangile de Marc. Et si t'es pas familier avec l'évangile de Marc, Marc, en fait, il se trouve dans la Bible. C'est un livre qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, les quatre premiers livres de la Bible, ce sont les évangiles, et ils retracent la vie de Jésus. On a Matthieu, on a Marc, Luc et Jean. Et ça retrace la vie de Jésus. Et donc, en Marc, au chapitre 2, on lit au verset 1. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum, et l'on apprit qu'il était à la maison. Une si grande foule s'assembla qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par quatre d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu ? Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut !» Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa alors ces mots paralysés, je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement et louaient Dieu et disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est une histoire tellement belle ici qu'on vient de lire ensemble. C'est une histoire tellement belle et je pense qu'elle représente ce que nous sommes appelés à être en tant qu'Église, ce que nous sommes appelés à être en tant que disciples de Jésus. Parce que je crois fermement qu'on est appelé à faire la différence autour de nous dans notre société. On est appelé à faire la différence en portant premièrement attention aux besoins des gens qui nous entourent. Il y a constamment des gens qui souffrent autour de nous. Que tu sois conscient ou pas, il y en a constamment autour de nous. Je lisais une étude pas plus tard que cette semaine qui démontrait que les jeunes entre 18 et 24 ans seulement souffraient énormément de dépression en ce moment. Il y a une augmentation des taux de dépression à cause de toute la pandémie qu'on a vécue. Et si c'est pas ton cas, peut-être que toi, ce matin, tu t'es dans la souffrance. Alors que tu vas faire ton épicerie, t'es partagé entre l'idée d'acheter un bon steak ou alors économiser pour payer ton loyer. Et moi qui suis un grand carnivore, moi je préférerais le steak quand même. Ou peut-être que toi, en ce moment ton travail c'est intense là. Manque de moyens, manque de main d'œuvre, t'es tiraillé de tous les côtés. t'es oppressé, t'es sous pression, t'es anxieux, t'es débordé de tous les côtés. Et peut-être que toi, tout va bien. Pour toi, tout se passe bien. Mais c'est peut-être la personne à côté de toi qui vit ça. C'est peut-être ton voisin, tes enfants, tes amis, tes collègues. Il y a constamment des gens autour de nous qui vivent des difficultés, qui vivent dans le besoin et auxquels nous sommes appelés à faire attention. Exactement comme ces quatre hommes-là qu'on vient de lire leur histoire là. Ils ont porté leur ami. Ils ont porté physiquement leur ami. Et il faut savoir qu'à ce moment-là de l'histoire, dans le contexte qu'on vient de lire, Jésus commence à se faire connaître. Jésus commence à accomplir de grands miracles. Jésus commence à avoir un impact significatif dans sa ville, dans la région où il se trouve. Et le bruit se répandait. Il y a un gars qui fait des choses extraordinaires là. Il y a un gars qui accomplit des choses merveilleuses. Et j'imagine tellement que ces quatre hommes-là ont dû entendre le bruit que Jésus est en train de faire des miracles. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas remis à plus tard. Alors qu'ils ont entendu le bruit, ils ne se sont pas dit « c'est peut-être une fake news, c'est peut-être une légende là ». Et puis d'abord, moi je dois m'occuper de ma maison, je dois faire mon ménage, mon repassage. D'abord, je dois laver un petit peu ma maison, je dois travailler dans mon étable, puis je dois regarder ma série Netflix là. Ma série Netflix que tout le monde me parle, il faut que je la regarde en ce moment. Puis je suis fatigué, j'ai juste la flemme, j'ai juste pas envie. On va l'amener plus tard à Jésus, on va le conduire plus tard vers Jésus. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas non plus laissé seul cet homme. Ils ne sont pas allés le voir en mode « Hey, bonne nouvelle, apparemment il y a quelqu'un dans les parages qui pourrait faire de quoi pour toi. Moi ce que je te conseille, appelle un taxi, appelle un Uber. » Puis tente ta chance. Allez, bye, bonne journée. Ils n'ont pas laissé seul cet homme. Ils n'ont pas non plus détourné le regard de sa souffrance. Parfois, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un vit de la difficulté, quand quelqu'un vit de l'épreuve, on est tellement gêné, on ne sait pas comment l'aider, qu'on préfère tourner le regard, on préfère ne pas le regarder, on préfère le mettre de côté parce que ça vient nous confronter nous-mêmes. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. À la place, j'imagine tellement... Je les imagine tellement, et c'est pas dans la Bible, hein, c'est selon mon interprétation, d'accord? Je les imagine tellement courir vers leur ami en disant « Hey bro, on a une nouvelle, à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui fait de quoi là, et qui peut faire quelque chose pour toi. On t'aime tellement qu'on va t'y amener. Et on va pas seulement t'amener, mais on va aussi te porter jusqu'à lui. On est tellement préoccupé par toi qu'on arrête tout ce qu'on fait juste pour toi, peu importe les heures, peu importe les kilomètres qu'on va faire, on va te porter, on va t'amener jusqu'à lui. Et en plus de ça, on ne sait pas si ça va marcher, mais en plus de ça, au cas où, on t'a acheté des crocs pour le retour, pour que tu puisses avoir de quoi mettre en revenant chez toi. Et je trouve ça tellement challengeant pour nous aujourd'hui. Tellement challengeant, parce qu'on est toujours trop occupé pour être dérangé. On a toujours des centaines de choses à faire. Nos journées passent tellement vite que finalement, on est pris dans le flot et on ne regarde pas aux besoins des autres. On n'accepte pas d'être dérangé, on n'accepte pas de prendre le temps de s'arrêter et de prendre soin. Et puis si on a le temps, un peu la flemme quand même. C'est plus l'heure, c'est plus le moment, un peu la flemme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de notre attention. Les gens ont besoin de voir qu'on se soucie d'eux. Les gens ont besoin de voir notre amour en action. Et c'est ce qu'on est appelé à faire en tant qu'Église. C'est ce qu'on est appelé à être, à porter les fardeaux des autres, appelé à faire une différence concrète dans la vie de ceux qui nous entourent. Il y a un homme qui a déclaré un jour que les gens blessés, qui ont été brisés par la souffrance et la maladie, demandent une seule chose. Un cœur qui aime et qui s'engage. Un cœur plein d'espoir pour eux. C'est répondre à l'appel de Romains 12, qui nous appelle à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bonne nouvelle, on se réjouit avec toi, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, d'entourer celui qui vit un deuil, de réconforter celui qui vit une dépendance et l'aider à l'en sortir, de ne pas les laisser seuls dans leur misère, de s'investir dans la vie d'une personne qui vit de l'anxiété constante. Je ne te laisse pas tomber. Concrètement, ça signifie porter son collègue qui est au fond du trou, l'entourer, lui dire « ça va aller, je prends tes nouvelles constamment, je ne te laisse pas tomber, man ». Et puis en plus de ça, je vais oser te le dire, je vais prier pour toi. Je m'engage à prier pour toi, je m'engage à t'accompagner, je m'engage à prendre de tes nouvelles fréquemment. Puis en plus de ça, pourquoi pas même l'inviter à l'église ? Je t'invite à l'église, mais en plus de t'inviter, je viens te chercher. Comme ces quatre hommes, je te conduis. Peu importe le détour que ça va me faire, je veux te conduire. Je veux t'aider. Je veux être là pour toi. Faire ce pas de plus. J'ai entendu une histoire il y a quelques années de ça à Nouvelle Vie. C'était Pasteur Claude qui nous l'avait partagé dans un cours à l'ITF. Il y a quelques années de ça, un matin, un dimanche matin, à Nouvelle Vie, Longueuil, il y a des bénévoles au stationnement. Tellement de voitures qui circulent qu'on a besoin de bénévoles au stationnement pour aider à l'organisation. Et il y avait une dame qui arrive et qui se fait aider pour le stationnement. Et alors qu'elle sort de sa voiture, elle et le bénévole constatent qu'elle a un flat. Il y a un de ses pneus qui est crevé. Alors la dame est un peu perturbée, un peu perdue. Le gars au bénévole, le bénévole lui dit « Hey, vous inquiétez pas madame, allez à l'église, allez louer Dieu, allez écouter le message, on s'en occupe. On s'en occupe. » Et alors qu'elle part, le gars bénévole, ils se retrouvent tous ensemble dans le stationnement, puis ils réfléchissent comment on peut l'aider. Alors ils tentent plein de choses qui ne fonctionnent pas, puis à un moment donné, ils se disent « Bon bah, on va aller au Canadian Tire, qui est à 15-20 minutes, on y va. » Puis on revient, on va lui acheter un pneu et on va lui installer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la dame, heureuse, elle sort de là, elle voit sa voiture toute neuve, toute prête, toute ready pour rouler. Elle est reconnaissante et c'est normal. Elle n'a besoin de rien faire, rien payer, tout a été fait pour elle. Ce que les bénévoles ne savaient pas, c'est que cette dame-là, ça fait plusieurs années qu'elle vient à l'église, mais ce matin-là, elle était venue avec sa sœur, qui ne connaît rien à l'évangile. Qui ne connaît rien à Dieu. Et sa sœur a tellement été bouleversée par l'amour de ces hommes-là qu'elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Parce que ces hommes-là ont accepté de faire un pas de plus, un effort de plus, de porter attention, de répondre à ce que Jean nous appelle à faire, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. On n'est pas appelé à être centré sur nous. On n'est pas appelé à avoir le dos tourné aux autres. Parce que ce qui est impressionnant de voir dans le texte qu'on a lu en Marc, c'est qu'on a une maison remplie de monde. Tous entassés les uns sur les autres pour écouter Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une star passer dans la rue, mais c'est impressionnant de voir tout le monde qui court vers elle, et puis tout le monde est serré, collé, juste pour s'approcher au plus proche de cette star-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette maison-là. Sauf qu'ici, les amis arrivent en portant le paralytique. Et ils font face à cette masse de foule, à cette masse de dos tournés à eux. Pas une personne pour leur porter attention. Pas une personne pour les écouter, pour prendre soin d'eux. Ils ne peuvent pas se frayer un chemin. Et je les imagine tellement en train d'essayer de dire « Hey, excusez, est-ce qu'on peut passer, Chut ! Preach it, hey, chut ! Ça va, hein ?» Yes, sir. Mm-hmm. Oh, yes, c'est bon, ça. Mm-hmm. Yeah, come on. Oh, je vais la noter, ça, sur Insta. Yes. Hallelujah. Woo, c'est good. Tout le langage corporel de ces hommes, de cette foule-là, montrait un désintéressement pour eux. N'est pas intéressé par toi. T'es pas important. Et parfois dans nos églises, sans s'en apercevoir, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on renvoie comme sensation. On ne s'intéresse plus aux nouveaux, on ne fait plus attention à eux. On a notre langage bien à nous. Comme par exemple, gloire à l'agneau immolé. Imaginez un vegan qui ne connaît rien à la Bible, qui rentre et qui croit qu'on va se faire un méchoui d'agneau à la fin de l'église. Notre objectif, nous, à Nouvelle Vie Châteauguay, c'est qu'on veut être ouvert vers les autres. On ne veut pas avoir le dos tourner. C'est pour ça qu'on a un espace bienvenu. C'est pour ça qu'on essaie de mettre nos meilleurs bénévoles à l'accueil pour accueillir chaque personne. C'est pour ça qu'on a décidé de passer à deux réunions dernièrement parce qu'on était trop plein. On veut refuser personne. C'est pour ça qu'on se bat, on essaie de trouver des solutions, des idées pour ouvrir rapidement une deuxième classe pour NVG Junior pour que personne ne soit mis de côté. On est appelé à faire la différence par notre attention, par notre amour auprès des gens qui nous entourent. Mais aussi, on est appelé à faire la différence par notre courage. Et attention, quand je parle de courage ici, je ne parle pas du courage de sortir de chez toi alors qu'il ne te reste plus que 15% de batterie sur ton sel. Ni le courage de sortir quand il fait moins 40 degrés en t-shirt. Non, ça ne se fait pas ça. Ou alors le grand courage d'aller se baigner alors que ça fait moins de 30 minutes que tu as mangé. Non, je parle du courage de persévérer ici. Être constamment dans la persévérance. Et j'aime le courage de ces hommes qui ne se sont pas arrêtés. Imaginez un petit peu avec moi. Encore une fois, on va imaginer ensemble, d'accord ? Imaginez un petit peu. Dos tourné, personne ne répond à leur pardon, est-ce qu'on peut passer ? Ok. On va te poser, on va jaser un petit peu ensemble. Comment on fait, les gars ? Parce qu'on a quand même fait 8 heures de marche là, pour y aller. On peut pas faire demi-tour, ce serait quand même dommage. On y est là, on est en face. Comment on fait ? Qui a une idée ? Oh ! On peut tenter une alerte à la bombe. Ouais, mais là, imagine, t'as un mouvement de foule, il se fait écraser, le pauvre. On est venu pour l'aider, hein, pas pour le faire écraser. Ouais, t'as raison. Ok, moi, j'ai vu un petit peu le Super Bowl, là, dimanche dernier. J'ai vu comment on plaquait les gens. Je pense que je peux m'en faire quelques-uns, là. Non, ils vont t'écraser avant. Laisse tomber. Ok. Oh. Hey, brillante idée, les gars. On va sur le toit. On creuse un trou dans le toit et on le fait passer dans ce trou pour qu'il tombe pile au pied de Jésus. Hein ? Mais là, on a une corde, ok, mais elle n'est pas assez longue pour atteindre le sol. C'est pas grave, il est déjà paralysé. Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire ? Ah ouais. Ah ouais, ok, let's do this, bonne idée, hey, accroche-toi non, on va y aller. Parenthèse, moi je pense qu'il manquait une femme dans le lot parce que ça manquait d'une certaine sagesse féminine hein, là-dedans. Mais ils y vont. Et c'est intéressant de comprendre à quoi ressemblait la maison à l'époque de Jésus et je vous ai trouvé un schéma, pas moi qui l'ai fait parce que sinon vous n'aurez pas compris à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemblait la maison à l'époque de Jésus. Et on voit un escalier qui nous permettait d'accéder directement au toit. Et en fait, le toit, c'était une genre de terrasse. C'était une autre pièce de la maison sur laquelle les gens venaient prendre un bol d'air frais, surtout la nuit quand il faisait chaud. Ils venaient même dormir sur leur terrasse en haut. Et on pouvait y accéder facilement par l'escalier. Et en fait, ce qui recouvrait le toit, ce qui faisait le toit, c'était tous ces morceaux, des morceaux de bois entassés les uns contre les autres, avec de la terre séchée, avec du fumier séché. Et c'est dans ça que ces hommes-là ont creusé, ont fouillé pour faire un trou, pour faire passer leur ami. Rien ne les a arrêtés. Ils ont cherché à faire une différence dans la vie de leur ami. Ils ont eu le courage de persévérer, de tenter quelque chose. Et c'est notre mandat en tant qu'Église. Nous devons tout faire en notre pouvoir pour rejoindre un maximum de personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est notre mandat. Tenter des choses qui n'ont jamais été faites. Oser faire des choses qui n'ont jamais été faites. Se mettre en danger, avoir peur d'échouer peut-être, mais on y va. Le prix est trop grand. Ça en vaut la peine de le faire. On veut tenter de faire des nouvelles choses. C'est pour ça que, je ne vais pas refaire les annonces de Jérémy, mais c'est pour ça qu'on s'est aussi lancé sur les réseaux sociaux à Châteauguay. Oui, on était bien dans notre groupe privé où on se partageait, on s'échangeait les sujets de prière, c'était le fun. Mais on veut plus de ça. C'est pour ça qu'on a bâti une équipe pour les réseaux sociaux, pour la communication. Puis c'est la meilleure équipe sur tous les multisites, croyez-moi. On a bâti une équipe parce qu'on veut donner envie, on veut attirer les gens, on veut leur montrer que l'Église n'est pas plate, l'Église c'est pas mort, l'Église c'est quelque chose de vivant et qui peut changer et transformer encore aujourd'hui. C'est pour ça aussi que Nouvelle Vie se lance sur TikTok. même si tu n'as aucune idée de ce que c'est, peu importe, réjouissons-nous. Peu importe l'outil utilisé, si ça peut servir pour que le message de l'évangile soit communiqué, c'est le principal. Peut-être que pour toi ce matin, ça va être d'oser t'impliquer à l'église. Alors que tu es une personne timide, tu sais que tu es quelqu'un qui est plus en retrait, peut-être que pour toi ça va être ton moment de te dire « Ok, je réponds moi aussi à l'appel parce que je sais que ça demande du courage. Je suis appelé à avoir du courage pour m'impliquer dans la vie des autres. Je suis appelé à sortir de ma zone de confort pour avoir un impact autour de moi. » Ou peut-être que pour plusieurs, ça va être d'oser partager ta foi pour la première fois. Même si tu te dis « Mais j'y connais rien. » Comment je vais faire si quelqu'un me contre avec une question que j'en ai aucune idée de quoi répondre, j'ai pas toutes les réponses. Si ça peut te rassurer, personne n'a toutes les réponses. Il n'y a aucun vrai professionnel là-dedans. J'aime ce que Christianity Today, c'est un site internet qui met des articles chrétiens. Ils ont réalisé un sondage auprès de leurs lecteurs et ils ont posé quelques questions sur l'évangélisation. Et lorsqu'on a demandé aux lecteurs quels étaient les obstacles au partage de leur foi, 49% ont répondu « c'est le sentiment de ne pas être capable de faire de l'évangélisation aussi bien que les professionnels ». 43% ont dit qu'ils étaient trop timides et 40% avaient peur de la réaction des gens. Ce matin, si je peux t'enlever une pression, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est pas toi. C'est même pas moi. C'est Dieu qui touche les cœurs. Toi, ton rôle, ton appel, c'est de partager ta foi. C'est de faire ton maximum pour la communiquer, mais au final, c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui fait naître la foi dans le cœur des gens. Comme c'est écrit en Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Puis peut-être que toi, tu te dis « Ouais, mais moi j'ai tenté un jour, puis ça n'a pas forcément bien marché en fait. Hein. J'ai vu aucun résultat. » Ne sous-estime pas ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça peut avoir un impact sur le long terme. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, mais je n'ai pas vu forcément de résultat. Apollos a arrosé, il n'a pas forcément vu de résultat, mais à la fin, c'est Dieu qui a fait croître. » C'est un travail d'équipe. Comme les quatre hommes qui ont amené leur ami à Jésus, c'est un travail d'équipe. Ils ne se sont pas relâchés, ils n'ont pas abandonné, ils ont fait leur maximum pour amener leur ami à Jésus. J'aime ce que Craig Rochelle a dit dans son livre « Lead like it matters ». Il a fallu quatre personnes pour amener cet homme à Jésus. Toucher les gens n'est pas seulement le travail du pasteur, c'est le travail de tous. Je ne peux pas le faire seul. Vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut que nous soyons tous concernés, chaque personne de l'Église et Dieu en plus. Avec Dieu. C'est notre mission. Comme c'était la mission de ces quatre hommes. Et alors qu'ils sont en train de lâcher leur ami à 3 mètres du sol, ça va, rien de cassé, leur ami se trouve en face à face avec Jésus. Et j'aime tellement ce que la Bible nous dit ici au verset 5. Quand Jésus vit la foi de ce paralysé. Ah non. Non. C'est pas ce qui est marqué finalement. La foi de cette foule, non plus. La foi de ces hommes. On ne parle pas du paralysé ici. On nous parle de ces quatre amis. C'est pour ça que je pense que nous sommes appelés, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire la différence par notre attention, par notre courage, mais aussi par notre foi. On est appelés à faire la différence par notre foi, comme ça a été le cas pour eux. Je ne sais pas si tu le réalises ce matin, mais il faut vraiment que tu réalises ce verset-là, c'est qui nous démontre que ta foi est importante. Ta foi est essentielle. Et je sais que parfois, on a entendu dans nos églises au sujet d'une personne qui est malade, au sujet d'une personne qui est stérile, au sujet d'une personne qui vit de la difficulté. Ouais, mais si elle avait plus de foi, elle ne vivrait pas tout ça. Mais ce n'est pas ce que ce verset nous dit ici. Si tu priais plus, tu n'aurais pas... Ce n'est pas ce que ce verset nous dit ici. Notre foi peut avoir un impact pour les autres, dans la vie des autres. Et il n'y a pas juste ce verset-là qui nous le montre. Dans tout l'évangile, on voit des personnes, des mères, des amis, des hommes venir à Jésus pour une personne qui n'est même pas dans le décor, qui est encore à des centaines de kilomètres de là, guérit cette personne qui est loin là. Et Jésus ne répond pas à la foi de l'homme qui est malade à l'autre bout du monde. Jésus répond à la foi de la personne qui est en face de lui. Ta foi peut faire une différence. Ses amis ont tout fait. J'aurais aimé avoir des amis comme ça. J'aimerais avoir des amis comme ça. Je les ai. Et je les aime pour ça. Mais ses amis ont tout fait. Ils ont entouré, ils ont aimé leur ami paralysé. Ils ont tout fait pour lui donner un accès à Jésus. Ils ont fait preuve de courage, d'innovation. Et ils ont eu assez de foi pour le relâcher à Jésus. En mode, on a tout fait, Jésus. On a fait notre maximum. On a fait notre possible. Maintenant, on a assez de foi pour dire, c'est à toi de faire l'impossible. On l'abandonne à tes pieds. Et pour certaines personnes ce matin, tu as tout fait pour tes enfants. Tu as absolument tout fait pour ton collègue. Tu as tout fait pour tes amis. Tu les tiens encore, mais ce matin, c'est le moment de les relâcher à Jésus. D'avoir assez de foi de les abandonner à Jésus pour qu'ils puissent faire ce que toi, tu es incapable de faire. Relâche. Tu peux faire confiance à Jésus. Il sait mieux que toi ce qui est le meilleur pour la personne qui est chère à ton cœur. Et la preuve ici, c'est qu'alors que ces hommes ont abandonné leur ami à Jésus, et Jésus ne l'a pas guéri tout de suite. Hein. La première chose que Jésus lui a dit, c'est « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Tu es pardonné. » Pas encore guéri, tu es d'abord pardonné parce que le plus important pour toi, ce n'est pas ta guérison. C'est que tu sois sauvé. Cet homme a été sauvé parce que des amis ont fait leur maximum pour lui. Parce que le cœur de ces hommes était tellement préoccupé par lui qu'il a connu le salut. Si tu veux vivre une année différente en 2023, si tu veux connaître une année différente en 2023, une année de renouvellement, de restauration, d'avancée, regarde à ton cœur, sonde-moi au Dieu, regarde ce qui se passe dans ton cœur, mais regarde aussi à quel point tu n'es pas assez centré sur les gens qui sont autour de toi. Reconnais-le. Moi, je l'ai fait, ça fait mal peut-être, mais en même temps, c'est tellement essentiel de le constater. Je n'ai pas un regard assez attentif à ceux qui m'entourent, aux besoins des gens qui sont autour de moi, à ceux que j'aime, mais au finalement, que je ne prends pas soin. À quel point tu es centré sur toi ? À quel point tu es venu ce matin, par habitude, puis finalement tu ne réalises même pas la chaise qui est vide à côté de toi. Regardez les chaises vides là aujourd'hui. Je suis le premier à me réjouir des chaises qui ne sont pas vides. Je célèbre ça, mais en même temps, chaque dimanche, de l'autre côté, mon cœur est brisé de me dire il y a encore une personne qui n'était pas là ce matin, qui avait peut-être besoin d'entendre un message, qui avait peut-être besoin d'être dans la présence de Dieu. Regardez les chaises vides dans cette salle. L'espace encore qu'on pouvait mettre. Avant, on avait plein de chaises là qu'on a un peu coupées parce qu'on est passé à deux réunions. Mais regarde toutes ces chaises vides. Et pose-toi cette question. Qui est-ce que je connais qui pourrait remplir ces chaises vides? Qui est-ce que je connais qui pourrait occuper ce siège? Qui est-ce que j'aime assez qui pourrait être là ce matin? Qui est cette personne pour qui Dieu veut que je m'investisse en 2023? À qui est-ce que tu dois faire attention pendant toute l'année? Pour qui est-ce que tu dois mettre ta foi en action? Pour qui est-ce que tu dois avoir du courage cette année? Si je vous prêche ça, parce que oui, Dieu va me challenger sur ça, mais c'est en plus parce que j'ai soif. J'ai soif et je prie pour ça, pour que à la fin de l'année, on puisse entendre dans l'Église des nouvelles voix s'élever vers Jésus. Qu'on puisse entendre un nouveau chant, des nouvelles louanges, et qu'on puisse tous s'écrier, comme au verset 12, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » On n'a jamais rien vu de pareil. Je soupire après cette phrase-là, qu'en décembre 2023, que des gens viennent me dire « On n'a jamais rien vu de pareil. » Ça fait des années que je suis chrétien, j'ai jamais rien vu de pareil dans cette église. Jamais rien vu de pareil dans ma vie spirituelle. J'ai jamais rien vu de pareil dans le partage de la foi autour de moi. J'ai jamais rien vu de pareil. Parce que des gens se sont engagés à faire cette prière sans de moi, mais déposent en moi une préoccupation, une passion, une flamme pour une personne qui ne te connaît pas, pour qui je m'engage à prier pendant toute l'année. Faire cette prière, Seigneur, dépose en moi le poids d'une chaise vide. Alors c'est sûr qu'une chaise vide, c'est léger, mais derrière, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a une âme, il y a une vie, il y a une histoire, il y a un témoignage. Seigneur, donne-moi le poids dans mon cœur d'une chaise vide. Qui est ta chaise vide ce matin ? Peut-être ton père, ta mère, tes enfants, un membre de ta famille, un de tes amis. Qui est cette chaise vide ce matin ? Moi, j'étais cette chaise vide. Bon, là, elle ne peut plus être vide parce que je m'assois dessus. Mais moi, j'ai été cette chaise vide. Avant, j'allais à l'église, puis après, j'ai arrêté d'aller à l'église. Pendant plusieurs années, je me suis éloigné totalement et ma chaise a été vide pendant des années. Et des gens m'ont tourné le dos. Parce que Florian, il est rendu trop intense, un peu trop loin, un peu trop dur pour nous, là, un peu trop radical pour nous. Il est trop gênant. Je préfère lui tourner le dos. Et je comprends, j'aurais fait pareil. Mais il y a des amis qui m'ont envoyé les messages au bon moment, de la bonne façon, parce que Dieu les poussait à le faire. Alors ils ont eu le courage de m'écrire, le courage de s'investir, le courage de porter attention. Et ma famille a eu le courage aussi, pendant toutes ces années-là, de m'épauler, de m'aider, même si je ne le voyais pas. Et un jour, Dieu a dû demander à mes parents, c'est bien, vous avez tout fait, mais là c'est le moment de l'abandonner, à moi. D'avoir assez de foi en moi pour me le laisser. Il n'y a que moi qui peux faire un miracle. Laisse-le, abandonne-le. Et ça a été tough, hein, pour ma mère surtout, ça a été dur. Et un jour, à cause des mauvaises décisions que j'avais prises dans toute ma vie, à cause des décisions terribles que j'avais faites, je voyais un mur qui allait s'approcher et que j'allais prendre en plein fouet. Et je savais que si je me prenais ce mur-là, à cause de toutes ces mauvaises décisions, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Je donnais pas cher de ma peau après. Et je suis venu à Jésus. J'avais aucune solution. J'étais comme cet homme-là, j'étais paralysé. Paralysé par les mauvais choix, paralysé par tout ce qui arrivait en face de moi. J'avais aucune issue de secours. Et alors que je venais à Dieu, je venais à Jésus, je disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Délivre-moi de ça. Jésus ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas ça d'abord l'important. Jésus m'a amené à un point où il m'a fait comprendre, arrête de demander de l'aide, mais demande pardon. Avant de t'aider, je veux changer ton cœur. Avant de t'aider, je veux te pardonner. Et alors que j'ai commencé à faire cette prière, ok, j'abandonne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Jésus a fait exactement comme il a fait pour ses paralysés. M'a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Tout est pardonné. Et ensuite de ça, il m'a relevé, il m'a restauré et je suis parti loin. La première fois que je suis revenu à l'église et Julie m'avait vu ce jour-là, elle m'a dit, oh, tu ressemblais à une épave. On voyait la souffrance sur ton visage, la douleur, le brisement dans tes yeux. Mais Jésus ne m'a jamais abandonné et il m'a remis sur pied. Et depuis, ma chaise n'est plus vide. Ma chaise n'est plus vide. Mais à côté de toi, il y en a encore une. Il y a encore une chaise qui est vide pour quelqu'un d'autre. Il y a encore quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, de la bonne nouvelle de Jésus autour de toi. Qui pourrait remplir cet espace vide autour de toi aujourd'hui? À qui tu penses ce matin? Ma prière, c'est qu'on puisse vivre une année différente à Nouvelle Vie Châteauguay. En faisant cette prière, sonde-moi, change-moi, mais aussi aide-moi à faire la différence autour de moi. Utilise-moi, Seigneur, comme ces quatre hommes. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux en 2023. Je vous invite à vous lever. On va passer un temps de prière. Et je vous invite à incliner vos têtes. On va rentrer dans un temps de tête à tête avec Dieu. Et je prie vraiment pour que le Saint-Esprit parle. Si ce matin, Dieu a placé un nom, une personne dans ton cœur, si Dieu a mis un nom pour cette chaise vide, commence à prier pour cette personne. Commence à intercéder pour cette personne. Si Dieu a mis un nom dans ton cœur pour l'année qui arrive, si tu veux t'engager à prier pour cette personne, à investir du temps, de l'énergie, de l'amour, à t'engager à répondre à l'appel, à faire une différence dans sa vie. Peut-être ce sera imparfait, peut-être qu'il va manquer quelque chose, mais tu dis, je te fais confiance, Seigneur, pour que tu fasses le reste. S'il y a un nom qui vient, si tu as une personne qui vient dans ton cœur, Dieu est en train de déposer une personne dans ton cœur et que tu dis, je veux m'engager à faire mon maximum. À faire mon maximum pour cette personne-là. Un maximum imparfait, mais je crois que tu es capable de m'aider, Jésus. Tu t'engages ce matin à dire, je veux porter attention à cette personne-là aujourd'hui. Je t'invite à lever ta main, comme pour dire, je te la remets tout de suite. Je te la donne tout de suite. Moi, je m'engage pour cette personne-là à faire la différence. Moi, je m'engage là. Je pense à cette personne. Je pense à Mathieu. Je pense à Sandra. Je pense à Marie. Je pense, peu importe. Je veux m'investir à m'engager pour elle, à prier pour elle, à faire des efforts pour elle. Et si t'as pas de nom, mais que tu veux t'engager à porter une attention particulière cette année aux gens qui souffrent autour de toi, si tu veux répondre à cet appel que Jésus te lance ce matin, lève juste ta main en disant, je réponds à ton appel, Jésus, à faire attention encore plus aux gens qui m'entourent et qui ont besoin de toi et que je ne le vois pas. Donne-moi tes yeux, Jésus. Donne-moi ton cœur, Jésus. Merci pour les mains qui se lèvent. Et avant de prier pour vous, avant de prier avec vous, peut-être que toi, ce matin, t'as besoin que Jésus porte une attention particulière à ta vie. Peut-être que toi, ce matin, t'as besoin d'entendre, comme ce paralysé, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. J'aime tellement la suite de ce passage, plus loin, dans plusieurs... Plus tard, dans quelques versets, on lit que Jésus dit « Je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui ont besoin. » À quel point tu as besoin de lui ce matin? À quel point tu dis « Moi, j'ai besoin que Jésus vienne me pardonner. Cette semaine, ça a été intense. Cette semaine, j'ai chuté. Cette semaine, j'ai encore échoué. J'ai jamais goûté à ce pardon-là. Je veux regoûter à ce pardon-là. Je veux que ma dette soit définitivement payée. Jésus est venu sur terre, pas pour les gens parfaits. Il est venu pour des personnes comme toi, comme moi, qui ont besoin d'être pardonnées. Il est mort à la croix pour ça, pour toi. Pour que tu puisses venir à lui, lui demander pardon et qu'il te dise, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Si t'as besoin de son pardon ce matin, s'il y a une personne qui a besoin de son pardon, je t'invite juste à lever la main, comme pour dire, moi Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Moi Jésus, j'ai besoin d'être pardonné. Moi Jésus, j'ai besoin, là, parce que cette semaine, non, je suis pas réussi. Moi Jésus, je veux revenir à toi. Je veux venir pour la première fois à toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour les mains qui se lèvent. Jésus, merci pour ton pardon. Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui ont levé la main, même pour toutes les personnes qui ont pas réussi à lever la main, mais qui ont besoin d'entendre cette phrase, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Je te prie que tu puisses effacer leurs dettes, que tu puisses les transformer, que tu puisses les délivrer du poids de leurs péchés, du poids de leurs fautes, du poids de leur culpabilité. Renouvelle, restaure, donne-leur cette nouvelle vie que tu as promis. Donne-leur ton esprit. Apporte cette nouvelle naissance, apporte un nouveau cœur, Seigneur, s'il te plaît, dans toutes ces vies. Puis je te prie pour toutes les personnes aussi qui ont eu un nom, une personne en tête, qui ont dit « Moi, je pense à quelqu'un ce matin. Je m'engage à prier, je m'engage à me donner pour une personne ce matin. » Tu connais tous les noms, tu connais toutes les histoires, tu connais toutes les personnes. Je te prie que tu puisses faire une différence dans les vies de ces gens-là. Que tu puisses faire la différence, que tu puisses faire un miracle. Qu'en 2023, qu'on puisse dire à la fin 2023, on n'a jamais rien vu de pareil. La personne pour qui j'ai prié au début de l'année, elle est là. En décembre, elle est là. Jésus l'a touchée, Jésus l'a changée, Jésus l'a guérie, l'a transformée. Jésus, s'il te plaît, aide-nous à vivre une année comme on n'a jamais vu auparavant. Donne à toutes ces personnes, Seigneur, donne à ton Église un cœur passionné par toi, mais aussi donne-nous ce poids-là de la chaise vide. Pas juste pour les chiffres et pour gonfler, non, parce qu'il y a une âme derrière, il y a un cœur derrière, il y a une histoire derrière. Donne-nous le poids de la chaise vide, s'il te plaît, Jésus. Rends-nous sensibles à ta peine. Rends-nous sensibles à ton cœur, s'il te plaît, Seigneur. Rends-nous sensibles à toi. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, Jésus. Déverse ton cœur en nous. Révèle-nous ton amour pour ces personnes-là. Rends-nous, Jésus, comme ce chant le dit, passionnés pour ceux que tu aimes, passionnés pour ceux qui sont perdus, passionnés pour ceux qui ont besoin de toi. Rends-nous passionnés pour eux. On veut bâtir notre vie sur ton amour. On veut ancrer notre foi en ton nom seul, Jésus. Ouvre nos yeux à ta beauté, Seigneur, et rends-nous passionnés par ceux que tu aimes.